France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'humanitaire, son histoire, ses idéaux, à ces questions nous consacrons une série cette semaine. Nouvel épisode ce matin, Gaza aujourd'hui, est-ce la ruine de l'idée d'aide humanitaire ? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ronnie Broman, médecin et figure majeure du mouvement humanitaire français, engagé depuis plusieurs décennies au sein de MSF, Médecins sans frontières, qu'il a présidé de 1982 à 1994, et auteur de nombreux textes, dont certains très critiques, des possibles effets pervers et instrumentalisation de l'aide humanitaire. Et avec nous aussi dans ce studio, Alain Finkielkraut, penseur et écrivain, auteur de beaucoup d'ouvrages, figure importante du débat public en France, bien connu des auditeurs de France Culture, puisque depuis 1985, tous les samedis matins de 9h à 10h, il produit sur cette antenne l'émission Réplique. Alain Finkielkraut n'est certes pas un acteur de l'humanitaire, mais il est clair que l'idée d'aide humanitaire l'intéresse depuis longtemps. D'ailleurs, je dois dire que le premier texte que j'ai lu dans ma vie de Ronnie Broman, intitulé « L'angélisme mystificateur », était un texte publié en 1994 dans la revue d'Alain Finkielkraut, « Le messager européen ». Par ailleurs, désireux de déployer leur désaccord, tous les deux ont publié ensemble en 2006 aux éditions Fayard un dialogue très vif intitulé « La discorde, Israël-Palestine, les Juifs, la France ». Bienvenue donc à tous les deux dans ce studio. Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Bonjour Alain Finkielkraut.
Bonjour.
Je précise que sur la situation à Gaza, vous vous êtes tous deux exprimés ces derniers temps. Notamment Ronnie Broman, vous avez écrit la préface du Livre Noir de Gaza, collectif publié au Seuil en octobre 2024. Et Alain Finkielkraut, vous avez fait un séjour en Israël le mois dernier. À votre retour, vous avez donné au Figaro un entretien substantiel. C'était le 25 mai 2025. Donc je citerai ces deux textes quand nous arrivons à la question de Gaza, mais auparavant, si vous le voulez bien, nous sommes dans une série ici sur l'idée humanitaire, j'aimerais que nous ayons un moment de discussion générale sur le bilan que vous dressez l'un et l'autre de cette idée et de ses traductions concrètes depuis quelques décennies. Donc je propose de commencer par quelques questions à Ronnie Broman, puis Alain Finkielkraut réagira, et après ce premier dialogue, nous parlerons de Gaza en ce moment. Alors Ronnie Broman, il y a une chose qui m'intrigue et qui m'intéresse beaucoup chez vous, c'est la radicalité de votre critique parfois de l'humanitaire dont vous faites partie, de la mouvance. C'est vraiment radical, ferme, conceptuellement précis. Vous parlez de sentimentalisme instrumentalisé, par exemple, par le pouvoir éthiopien dans les années 1980, quand il a fait servir l'action des humanitaires contre la famine au déplacement voulu par lui de population. Vous parlez aussi de l'anxiolytique humanitaire qui permet à des puissances spectatrices d'horreur de ne pas s'engager politiquement de manière plus ferme. Je vous cite, massacrer, déporter, purifier, mais de grâce, laisser passer nos convois humanitaires. C'est une attitude que vous dénoncez brillamment, comme on le voit. Avec une telle lucidité critique, comment avez-vous pu ne pas rompre avec l'engagement humanitaire, avez-vous été tenté d'en sortir ?
Ah non, pas du tout. C'est au contraire cette tentative d'être lucide sur les enjeux et les limites qui m'a permis de me sentir à peu près à l'aise. Je dis à peu près parce que finalement on n'est jamais totalement à l'aise dans aucune situation sociale, si on a un peu de recul par rapport à ce que l'on fait, mais qui m'a permis d'être à l'aise d'une certaine manière. Je dirais que l'humanitaire, peut-être comme d'autres objets sociaux, mais je ne veux pas m'aventurer en dehors de ce terrain-là, l'humanitaire ne se conçoit bien, ne se comprend bien, ne se pratique bien d'une certaine manière qu'à partir d'une réflexion sur ses limites. Il me semble qu'on perçoit mieux le centre à partir des limites, et c'est cela que, de façon circonstancielle, c'est-à-dire en fonction du contexte que j'ai pu écrire sur... par exemple, ce que j'ai appelé la pornographie humanitaire au moment de l'exode du Rwanda consécutif au génocide de 94, où d'une certaine manière on mettait en scène la logistique humanitaire pour reléguer dans les coulisses le génocide qui venait de s'accomplir, au vu aussi de tous, sans que personne ne réagisse, ou au moment du tsunami où on la ruée vers cette zone sinistrée s'est faite au mépris de la survie, au mépris des réelles conditions d'existence, au mépris des réels besoins. Il s'agissait d'une sorte de mise en scène narcissique qui avait quelque chose, effectivement, d'obscène, mais ça n'était pas pour condamner les secours en situation de catastrophe naturelle, ni les secours dans des camps de réfugiés ou dans un pays en proie à la guerre, y compris une guerre génocidaire, puisque Médecins Sans Frontières était présent au Rwanda pendant le génocide.
Et donc, juste sur ce point, pour que tout le monde n'a pas forcément cela en tête, il est vrai que ça a été assez rapide, ce génocide. En 2 mois, plus de 800 000 morts, 3 mois. Et ce sont souvent les Hutus qui ont passé la frontière pour aller se réfugier ailleurs, qui étaient quand même dans le camp des génocidaires. Ce sont souvent à eux, ensuite, qu'on a apporté de l'aide humanitaire avec beaucoup d'images, alors qu'on en avait si peu du génocide. Et donc, il y a eu une espèce d'inversion un peu perverse des rôles. C'est-à-dire, on a beaucoup
mis en tête. Oui, et une épidémie providentielle de choléra, si j'ose dire, parce que le choléra a un caractère démocratique. Il frappe tout le monde, les génocidaires, les génocidés, les victimes de cette guerre. Et il a fallu, en effet, de façon, intervenir au moment du choléra. Et Médecins Sans Frontières l'a fait comme d'autres. Mais une fois l'épidémie de choléra passée, il était important de reprendre ses esprits, si j'ose dire, de reprendre son esprit un peu politique, non pas pour faire de la politique, mais pour éviter d'être attrapé, pris dans un engrenage politique infernal, ce qui a été le cas de ces camps de réfugiés qui ont servi d'une certaine manière à la reconstruction d'un pouvoir génocidaire aux frontières du pays où venait de s'accomplir le génocide.
Alors j'ai une autre question, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tensions, c'est très intéressant dans votre position d'acteur et aussi une position intellectuelle. D'un côté, vous racontez très bien comment il vous a fallu, pour entrer pleinement dans l'engagement humanitaire, sortir d'un certain tiers-mondisme qui idéalisait un peu les anciens colonisés. Vous avouez avec beaucoup de franchise que vous avez été maoïste très jeune. Il y a eu un moment où les Khmers rouges, vous n'avez pas bien saisi le problème. C'est venu très vite. Et ensuite, évidemment, vous avez pris conscience de l'horreur Khmer rouge au Cambodge. Vous rendez hommage au livre de Pascal Bruckner de 1986, Le sanglot de l'homme blanc, qui dénonçait, je cite, un bovarisme tropical, une culpabilité constante dans l'Occident colonisateur. Donc, vous avez fait ce chemin intérieur. Et en même temps, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout éloigné du paradigme colonial. Ça vous hante encore, je crois. Vous craignez notamment, je vous cite, que dans l'humanitaire, parfois, rampe un néocolonialisme sournois. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez, mais aussi que vous me disiez une nouvelle fois comment vous faites avec cette tension entre des enjeux très différents.
Disons que le néocolonialisme dont je parle n'a pas grand rapport avec l'esprit colonial du 19e siècle, mais il se noue à lui par l'intermédiaire d'un certain paternalisme que tout aidant est tenté d'adopter vis-à-vis de l'aider. C'est ce que j'ai appelé aussi, enfin pour la critiquer, la mission pastorale de l'humanitaire, cette tentation d'être une sorte de bon berger qui guide ses ouailles dans des campagnes d'éducation sanitaire, de promotion de la santé, pour parler de domaine qui est le mien, c'est-à-dire la médecine humanitaire, qui, je le dis d'emblée, pour moi, n'inclut pas ces notions-là, mais qui, pour certains, le font. C'est-à-dire, pour certains, la promotion de la santé, c'est le nec plus ultra de l'action sanitaire que l'on peut mener pour aider des gens qui sont dans le besoin. Moi, je pense que ça n'est pas du tout le cas, mais il y a débat là-dessus. En tout cas, moi, j'ai dénoncé cela, et cette mission pastorale, je pense qu'elle se noue, qu'elle se lie de façon presque spontanée avec un certain colonialisme, surtout le colonialisme à la française, qui prétendait être un colonialisme émancipateur. Il s'agissait de sortir des populations, des ténèbres dans lesquelles ils étaient plongés, pour les amener à la lumière de la civilisation. Il y avait donc une sorte de, comme d'ailleurs je crois Pierre-André Taguieff l'a nommé, un racisme évolutionniste. C'est-à-dire les gens n'étaient pas considérés comme naturellement inférieurs, mais comme socialement retardés. Et donc il s'agissait de les accompagner, les prendre par la main vers les chemins de l'émancipation. Ça, c'était une certaine idéologie développementiste contre laquelle, personnellement, enfin, je me suis élevé, en effet. Donc la dénonciation d'un certain tiers-mondisme, d'un paternalisme colonial et de ces choses-là, voilà, a été aussi, pour moi, un sujet de réflexion et aussi d'action, parce que ça a des conséquences sur la manière dont on conçoit l'action.
Alain Finkielkraut, vous avez publié René Broman dans des textes durs, hein, l'angélisme mystificateur de Broman, c'est un texte très sévère, sur sa propre jeunesse d'ailleurs, certains aspects, et sur l'humanitaire. C'est un point commun, peut-être un peu ancien, avec lui. Vous trouvez que c'est une des personnes dans ce pays qui a le mieux formulé la difficulté de l'idée humanitaire et de ses évolutions ?
Oui, sans doute. Mais d'un autre côté, il faut rendre hommage à l'humanitaire et à ces médecins sans frontières, médecins du monde. L'humanitaire est né d'une révolte contre l'idée que le mal pouvait être considéré comme un instrument de la raison, une ruse de la raison, disait Hegel, et donc servir au bien. L'humanitaire dénonce le scandale de toute théodicée. C'est Foucault qui l'a très bien dit, le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Voilà, à mon avis, la philosophie fondatrice de l'humanitaire. Ou pour parler comme Lévinas, après un siècle qui a vu les totalitarismes de droite et de gauche, les génocides d'Auschwitz, du Cambodge et du Rwanda, on doit pouvoir parler de souffrance inutile. La souffrance est inutile et donc elle doit être prise en charge tout de suite. Donc il faut saluer, à mon avis, l'urgence de l'humanitaire. Alors, ma critique serait un peu différente de celle de René Broman. On a eu au Vatican un pape humanitaire. François, c'était vraiment la pensée humanitaire en acte. Mais que disait-il ? Il disait justement, nous devons venir en aide aux migrants tout de suite, sans compter. Et il ajoutait, personne n'est étranger, nous sommes tous des migrants. Et d'ailleurs, parce que c'était un pape tout immigré qui frappe à notre porte et l'occasion d'une rencontre avec Jésus-Christ. Voilà. Au nom de quoi, d'ailleurs, il disait, l'Église doit être considérée comme un hôpital de campagne après la bataille. Nous sommes en pleine humanitaire. Mais ce faisant, il critiquait très violemment les politiques frileuses, craintives, restrictives de l'Europe. Et c'est ce qui me gêne dans une certaine ontologie au fondement de l'humanitaire, c'est-à-dire l'homme se définit par sa souffrance, et quand nous souffrons, nous sommes tous les mêmes, oui. Donc on en arrive à l'idée que les hommes sont interchangeables. Et ce qui est d'ailleurs le point commun de la logique humanitaire et de la pensée des chefs d'entreprise. Toujours plus de migrants, parce que pour nous, chefs d'entreprise, en effet, les hommes sont interchangeables. Or, ils ne le sont pas. Les hommes viennent avec leur histoire, leur culture, leur enracinement, etc. Et je pense que l'urgence humanitaire doit être préservée, mais il faut se garder de cette philosophie-là, de cette ontologie. Il faut concevoir que les hommes ont une histoire, que l'Europe a une histoire, qu'elle doit pouvoir poursuivre cette histoire et que ça se fait à certaines conditions et que par conséquent, l'urgence humanitaire ne peut pas suffire à penser le monde ni à agir dans le monde.
C'est suffisamment clair pour que je ne fasse aucune transition. Je vous laisse répondre directement au Libroma à ce que vient de dire Alain Finkielkraut.
Mais en ce qui concerne les migrants, qui sont en effet un chapitre parmi d'autres, mais un chapitre important de l'aide humanitaire contemporaine, je pense qu'il faut pas, faut être clair sur ce que entendent les humanitaires. Ce sont les souffrances inutiles, comme l'a rappelé Alain Finkielkraut, ou les cruautés non nécessaires, qu'il s'agit d'éliminer, en tout cas d'éviter, en tout cas il s'agit de lutter contre celles-ci. Eh bien, les naufrages qui caractérisent les traversées maritimes ou bien les extrêmes duretés qui sont celles de la traversée terrestre lorsque des migrants viennent d'Europe centrale, voilà ce qu'il s'agit de d'atténuer. Voilà en quoi il s'agit, le domaine dans lequel il s'agit d'agir. Pas de tourner le dos en disant ce sont éventuellement des envahisseurs de l'Europe et contre lesquels il s'agirait de se protéger, mais ce sont des êtres humains en danger auxquels nous devons apporter, au nom de l'idéal humanitaire, si j'ose dire, ou de l'esprit humanitaire qui nous anime, auxquels nous devons apporter non pas une solution, mais une assistance. Ça ne veut pas dire que les humanitaires prétendent, produire ou même concevoir de façon générale une politique migratoire de l'Europe. D'ailleurs, un certain nombre de sauvetages d'embarcations humanitaires qui sont en train d'être naufragées amènent les humanitaires à raccompagner, lorsque ce sont par exemple dans les eaux territoriales libyennes ou tunisiennes, à raccompagner les migrants sur les côtes africaines et non pas à Malte ou en Italie comme bien souvent on le pense. Donc entre secourir des migrants en train de se noyer et définir une politique migratoire, il y a un pas que les humanitaires dans l'ensemble ne franchissent pas. Et d'ailleurs, il y a évidemment dans ce domaine des tensions, des difficultés, parce que c'est un problème complexe, à la fois humain, politique, culturel, et qui donc agite les esprits. Et j'entendais l'autre jour des collègues de Médecins Sans Frontières qui parlaient de tensions très dures qu'ils ont eues avec des groupes, par exemple, dits « No Borders », qui considéraient une organisation humanitaire comme Médecins Sans Frontières bien trop conservatrice, bien trop crispée sur les limites de l'humanitaire, alors que précisément leur idéal était l'effacement des frontières. Et nous étions considérés, nous, comme des espèces de collabos.
Donc tous les humanitaires ne sont pas « No Borders »
Non.
Finkielkraut ?
Non, bien
sûr. On est sans frontières, mais pas nos borders.
J'entends ce que dit Ronnie Bomban. Je crois que SOS Méditerranée, par exemple, et nos borders. Il y a, chez une partie des humanitaires, l'idée, d'ailleurs développée par Jacques Derrida, de l'hospitalité inconditionnelle. L'hospitalité inconditionnelle.
Alors, certains Derridiens disent que c'est pas ça qu'a dit Derrida. Il n'y avait pas d'absoluité de ce
non,
dogme.
Non, mais avait... quand même, c'est cette idée que, par exemple, l'Europe est une forteresse, ce qui est totalement absurde, étant donné le nombre de migrants qui arrivent en Europe chaque année, 500 000 par an en France, l'équivalent d'une ville comme Toulouse, donc penser que l'Europe est une forteresse aujourd'hui est absurde, mais ça se dit beaucoup dans certains milieux humanitaires. Pas tous, et là Ronnie Bomban a raison. De toute façon, quand des migrants risquent de se noyer, il faut les sauver. Il ne faut pas non plus travailler de conserve avec les passeurs. Ça serait embêtant. Et c'est le cas, me semble-t-il, de certains humanitaires. Mais Ronnie Bomban a dit, il y a des limites, tant mieux, parce que le pape, lui, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et c'est la morale du bon samaritain. Oui. C'est la morale du bon samaritain.
L'évangile de Luc.
Voilà, oui. L'amour, l'évangile, voilà. Mais là encore, je citerai Lévinas, c'est-à-dire, oui, au prochain, nous devons tout, mais d'emblée, il y a le tiers. Et d'où la question, qui est mon prochain et dit, à partir de là... s'impose la sagesse de l'amour. L'amour inconditionnel du prochain, mais tout d'un coup la sagesse de l'amour, c'est-à-dire la philosophie, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la justice. Pas seulement la charité, mais aussi la justice. Et c'est effectivement à cela qu'il faut penser, et voilà pourquoi l'humanitaire ne peut pas tenir lieu de rapports exclusifs au monde. Les choses sont plus compliquées. Mais là-dessus, je ne suis, semble-t-il, pas en désaccord avec Ronnie Bomban.
Qui dénonce l'humanitarisme lorsque la politique ne fait que de l'humanitaire et l'utilise pour ne pas faire de politique. Alors, hier, nous avons reçu Bernard Kouchner qui a montrer une noirceur très grande sur l'état du monde, disant même à un moment de l'émission que nous avions devant lui le créateur du devoir puis du droit d'ingérence, mais que en fait c'est quelque chose qui n'existe pas. Il a créé quelque chose qui n'existe pas, qui ne marche pas, et ce qui nous a évidemment conduit à parler un peu de la situation à Gaza. Je voudrais, Roni Broman, que vous me disiez où vous en êtes, vous, après des décennies de construction d'une aide humanitaire de plus en plus professionnalisée, avec des assises intellectuelles que vous venez d'ailleurs d'évoquer. Est-ce que c'est la ruine en ce moment, Gaza notamment étant un point noir? Est-ce que c'est la ruine de cette idée qui se joue notamment là-bas?
Oui et non, si on peut dire. Non, parce que des organisations humanitaires sont à pied d'œuvre à Gaza, qu'elles sont soutenues par leurs arrières et que l'humanitaire est régulièrement invoqué comme un appel à la retenue. Donc, de ce point de vue-là, l'humanitaire connaît des situations difficiles, mais là, ça a toujours été le cas. Cette série sur l'humanitaire de votre émission a commencé par l'évocation du Biafra, parce que c'était en effet le redémarrage de l'humanitaire, qui n'est pas né au Biafra, mais qui a connu, disons, une nouvelle existence à partir de ce moment-là. Mais le Biafra, ça malheureusement, ça n'a pas vraiment été évoqué lors de l'émission, que j'ai écoutée avec attention, bien sûr. Le Biafra a été le théâtre d'une formidable manipulation de l'humanitaire. Donc c'était à la fois une extraordinaire mobilisation qui a sauvé des milliers de vies, donc il faut rendre hommage aux médecins, aux logisticiens, aux gens qui ont œuvré, aux curés d'ailleurs également, qui ont œuvré au Biafra. Ils ont rendu un très grand service au Biafra eux-mêmes, mais le Biafra a été le théâtre d'une formidable manipulation. Je dirais, d'une certaine manière, c'est l'entrée de la victime sur la scène politique, jouée par une coalition entre la sécession biafraise et les services spéciaux français. Donc, mais enfin, je ne développerai pas là-dessus, mais ça a été le cas. Donc, la scène inaugurale de l'humanitaire contemporain comprend cette formidable manipulation. Et pourtant, l'humanitaire s'est développé, a, si j'ose dire, prospéré, en tout cas, a grandi, a mûri. Vous évoquiez la famine d'Éthiopie de 85, pendant laquelle le gouvernement éthiopien totalitaire, stalinien, a utilisé l'aide humanitaire pour mener à bien son programme de déportation, disons, de chirurgie sociale sans anesthésie, c'est-à-dire de brassage de la société pour la rendre plus vulnérable et plus perméable aux idéaux authentiquement communistes qu'il prétendait représenter, et ainsi de suite. Donc, l'humanitaire et le théâtre, enfin, et, disons, la scène de l'humanitaire accueille des crises successives, et aujourd'hui, avec Gaza, pour certains, et moi je me reconnais là-dedans, c'est plutôt l'idée d'humanité qui a péri, ou en tout cas qui est gravement blessée sous les décombres Gaza. Eh bien, voilà plus d'un an et demi, enfin voilà 19 mois maintenant, que nous voyons une population qui a pris, pour des raisons que Israël pourrait expliquer, une peine de prison à perpétuité, qui, en plus de cette peine de prison, se voit littéralement matraquée, martelée par des bombardements incessants et évidemment indiscriminés. On se demande d'ailleurs ce que l'intelligence artificielle a apporté au ciblage de ces bombardements, quand on voit l'étendue des destructions à Gaza et le fait que, à peu près dans tous les secteurs de la société de Gaza, on compte un nombre équivalent de victimes. Donc c'est une guerre contre les Palestiniens qui a été menée, et non pas contre le Hamas. C'est important pour moi de l'avoir à l'esprit. Et cela s'est fait dans l'acceptation générale, et on peut pas s'empêcher de rapprocher ça de la guerre de Libye, enfin de l'activation de cette notion de responsabilité de protéger dont il a été vaguement question hier en parlant d'ingérence. La France, le Qatar et un certain nombre d'autres forces se ruent en Libye pour démanteler le régime libyen, tuer Kadhafi, au nom de la prévention d'un massacre, donc qui en plus était impossible vraiment à réaliser, donc en construisant cette guerre sur d'énormes bobards propagandistes. Mais enfin, en tout cas, il s'agissait d'éviter un massacre. Là, 15 ans après, le massacre a lieu sous nos yeux, de façon continue, répétée chaque jour. Aujourd'hui encore, c'est rentré dans la routine de nos informations du matin, une trentaine de morts lors d'une distribution d'aide, enfin de vivres, je n'appelle pas ça moi de l'aide humanitaire, mais une distribution de vivres dans le contexte du dispositif d'assistance mis en place par Israël et par les États-Unis. Et là, c'est vraiment l'idée même d'humanité qui est en train de chavirer. Et ce qui se passe
c'est
à Gaza...
C'est l'anti-Libye, si je vous suis bien. La Libye, on s'est précipité, dites-vous. Et là, on ne se précipite pas. Et dans les deux cas, c'est une catastrophe. C'est ce que vous dites ?
Oui, dans les deux cas, on s'est précipité, c'est une catastrophe. Ouais. Là, on ne se précipite pas, c'est une catastrophe. Alors, il ne s'agit pas de dire, on fait quelque chose, ça ne va pas, on ne fait rien, ça ne va pas non plus. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il s'agit d'agir à bon escient. Et là, il ne s'agissait pas d'envoyer la troupe à Gaza. Pas un instant, j'imaginerais, déclarer la guerre à Israël pour sauver Gaza.
Alors
mais au moins, arrêter d'aider Israël dans son entreprise, en l'aidant à la fois symboliquement et politiquement par la désignation d'Israël comme seule démocratie du Proche-Orient, comme disposant du droit à se défendre comme tout le monde, alors qu'elle est une puissance occupante et que ça n'est pas le droit à se défendre, mais la riposte, effectivement, attendue, qui était prévisible là.
Le massacre du 7 octobre
allait déclencher une riposte, et celle-ci était légitime, naturellement. Elle était attendue, tout le monde le savait. Mais cette guerre vengeresse, punitive, aveuglément dirigée contre la population palestinienne, ça, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est vraiment l'idée d'humanité, et l'Europe, par le soutien qu'elle apporte à Israël, notamment par le biais de cet accord d'association qui est enfin mis en discussion désormais, accord d'association dont l'article 2, c'est-à-dire pas un article en fin de texte, mais au tout début, prévoit le respect par les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien les Européens que les bénéficiaires de l'accord, des principes démocratiques et des droits de l'homme. On voit bien que ni les principes démocratiques ni les droits de l'homme ne sont respectés, et ça fait déjà un beau bout de temps que tout cela est en cours.
Alain Finkielkraut.
Oui, alors, il y a deux jours, je crois, Le Monde publiait un article d'Ehud Olmert, que j'ai rencontré en Israël. Il fait partie des gens que j'ai rencontrés en Israël.
Il a été premier ministre,
il vient du Likoud, il a négocié avec Annapolis un accord de paix. C'était Abou Mazen, Mahmoud Abbas. Les propositions israéliennes étaient, je dirais pas très généreuses, mais enfin, c'était très importante. L'accord de paix a été refusé, comme d'ailleurs Arafat avait dit non aux propositions d'Ehud Barak à Camp David. Les Palestiniens ne manquent jamais une occasion de manquer une occasion, disait Abba Eban, et ça s'est vérifié. Quant au Hamas, il n'a jamais voulu d'entendre parler d'accord de paix. Le Hamas avait l'occasion d'assurer une vie décente à ses citoyens à Gaza, qu'Israël n'occupait plus depuis 2005, l'occupation. Et pourquoi Gaza était-il asphyxié ? Parce que l'intégralité de son argent, le Hamas s'en servait pour accumuler des armes et pour construire un métro auquel, aujourd'hui encore, les Gazaouis n'ont pas accès. Parce que pour le Hamas, ce sont des boucliers humains. Mais je vous cite Ehud Olmert. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien est l'ennemi intérieur d'Israël. En 77 ans, aucun ennemi extérieur n'a infligé autant de mal à Israël que l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Et beaucoup d'Israéliens sont d'accord. Israël est un pays divisé comme jamais. Il y a toujours eu des tendances, si vous voulez, mais les gens se parlaient. Et on pouvait même penser que l'opposition avait lieu à l'intérieur de chacun. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, beaucoup d'Israéliens éprouvent un sentiment de honte devant ce gouvernement, et devant notamment les ministres extrémistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Seulement, je ne parlerai pas vraiment de bombardements indiscriminés. en une nuit, les Américains, les bombardiers américains ont fait 100 000 morts à Tokyo. 100 000 morts en une nuit. Voilà ce que c'est qu'un bombardement indiscriminé. Voilà ce que c'est. Donc ce n'est pas vrai. Ils ne tirent pas aveuglément parce qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait pas 2 millions d'habitants à Gaza après 18 mois de guerre. Ce n'est pas vrai. Et l'humanitaire, en plus, s'est laissé totalement manipulé par le Hamas. Quelle organisation humanitaire a dit que les vivres étaient confisqués par le Hamas et revendus à prix d'or à la population palestinienne? Ainsi, le Hamas pouvait accumuler une fortune et recruter de nouveaux miliciens. C'est ça qui s'est passé. Et il y a quelques jours encore, des entrepôts du Hamas ont été pillés par la population parce que, précisément, le Hamas accumulait des vivres. Et la population de Gaza réclame aujourd'hui, une partie de la population, que le Hamas dépose des armes, que le Hamas s'en aille. Et il y a deux jours encore, la BBC et le Washington Post publiaient un démenti en disant que les tirs qui avait eu lieu, qui avait été condamné, n'étaient pas des tirs à proximité des centres d'aide. Donc, à ce niveau-là, il y a aussi des fake news diffusées par le Hamas et relayées avec une complaisance extraordinaire, notamment par les organisations humanitaires. Jamais on a vu ces organisations prendre la moindre distance avec le Hamas, avec son comportement vis-à-vis de l'aide alimentaire elle-même. Simplement, on a dénoncé et les organisations humanitaires, l'humanité est en question, donc le génocide à Gaza, le génocide. Ce mot, si vous voulez, il est devenu un point de ralliement. On le dénonce maintenant au lycée Hélène Boucher, partout, le génocide à Gaza. Le génocide à Gaza, c'est une manière de nazifier Israël et de nazifier les Juifs. Et si les Juifs, c'est-à-dire les Israéliens et tous les sionistes, c'est-à-dire la grande majorité des Juifs, sont des complices d'un génocide, tout est permis contre eux. Et on le voit aujourd'hui. On l'a vu à Washington, avec l'assassinat qui a eu lieu. On l'a vu à Boulder, où des cocktails Molotov ont été lancés contre des gens qui manifestaient pour la libération des otages. Vous vous rendez compte? Ils manifestaient pas pour Netanyahou, qui est, je le répète, le pire premier ministre de l'histoire d'Israël. Ils manifestaient pour la libération des otages. Moi, je pense que la critique est nécessaire, mais il faut la libérer, cette critique, de l'emprise d'un discours, à mon avis, délirant et extrêmement dangereux, parce que, avec le mot de génocide, s'installe un peu partout une bonne conscience antisémite.
C'est le titre qui a quelque chose de terrifiant. Qui a été donné à votre entretien au Figaro il y a une semaine. Pensez-vous, en effet, Roni Broman, que la critique légitime Israël, donc c'est ce que vient de dire Alain Finkielkraut, et sur ce point, je crois qu'il partage votre avis, est sous l'emprise, hélas, dit-il, d'une certaine bonne conscience antisémite qui fait qu'il y aurait un contentement à voir les Israéliens tous, et peut-être derrière eux les Juifs, se comporter mal?
Ben, je pense que ça fait partie du tableau, en effet. Et pas seulement du tableau dans lequel apparaissent les critiques d'Israël. J'ai même tendance à penser que parmi les soutiens d'Israël, je pense notamment aux Allemands, mais aussi aux évangéliques nord et sud américains, qui sont parmi les plus fervents soutiens non seulement d'Israël, mais de la politique coloniale et dans sa version la plus dure d'Israël. Je pense que ceux-là, parmi lesquels on compte nombre d'antisémites, car l'antisémitisme et le sionisme ont quand même historiquement fait bon ménage pour des raisons évidentes qui n'ont rien de pervers. Hein, les antisémites et les sionistes voulaient dégager les Juifs de l'Europe, et de ce point de vue-là, leurs intérêts étaient convergents, même si les cheminements étaient évidemment totalement différents. Eh bien, je pense qu'il y en a un certain nombre qui se disent, regardez, finalement, Israël, que l'on soutient, ces Juifs qui ont tant souffert et qui se plaignent sans arrêt de la Shoah, ben voilà ce qu'ils sont capables de faire. Donc il me semble qu'il y a une sorte de Schadenfreude, une espèce de joie malsaine que certains soutiens d'Israël qui sont à la fois antisémites et pro-israéliens éprouvent. Donc je pense que dans tous les camps, j'insiste sur celui-ci, mais il est évident que dans le camp des critiques d'Israël, il y a aussi des antisémites pour qui tout signe juif est à repousser et l'évocateur d'un mal,
Donc là-dessus, vous êtes en fait d'accord, je crois. Qu'on va chercher les accords, il y en a.
Mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Sur ce point,
rassurez-vous.
Sur ce point, oui.
Parce que
pour bien d'autres choses, j'ai vu réactiver les thèmes de notre conversation d'il y a 20 ans dans la Discord. Disons, sur l'existence de l'antisémitisme et sur sa présence dans les différents camps en présence, et peut-être que là on serait un peu moins d'accord, c'est-à-dire parmi les soutiens d'Israël, il y a aussi un grand nombre d'antisémites. Et ça, il me semble que c'est quand même important à rappeler. Pour le reste, la façon dont le Hamas aurait saisi les vivres, l'aide qui rentrait de l'étranger, ça, ce sont des affirmations constantes de la propagande israélienne, activement relayée par Alain Finkielkraut, mais il n'en est pas à son premier essai, donc je reconnais là quand même une vieille habitude. Aucune preuve, je dis bien, aucune preuve n'a jamais été produite.
Et le pillage des entrepôts du Hamas, il n'y a pas de preuve.
Le pillage des entrepôts, c'est en effet une action menée par la population qui crève de faim, mais sur la longue durée, le détournement de l'aide par les gens du Hamas n'a jamais été observé par les humanitaires. Ils n'ont pas repris à leur compte une propagande du Hamas. Ils disent simplement qu'il n'y a rien qui permet de soutenir cette thèse. Et si Israël était si sûr de son bon droit, de son action dans le territoire de Gaza, il autoriserait la venue de journalistes. C'est une guerre qui se déroule depuis 19 mois sans qu'un seul journaliste étranger ne soit autorisé à entrer, sauf à quelques très rares moments dans une colonne blindée israélienne, c'est-à-dire totalement embedded, cadrée par l'armée israélienne. Donc s'il y a quelque chose à dénoncer, et vous savez, à Médecins Sans Frontières en particulier, d'autres organisations aussi, mais je pense plus Médecins Sans Frontières que les autres, a toujours été capable de dénoncer les détournements, les dévoiements, les instrumentalisations perverses de l'humanitaire. Aujourd'hui, les interrogations que nous avons pu produire auprès de nos différentes équipes. D'ailleurs, je signale, hier, quelque chose d'inexact que je voudrais rectifier a été dit. Il n'y a pas d'humanitaire expatrié à Gaza, a dit l'une des intervenantes hier. Si, bien sûr, il y en a de Médecins Sans Frontières, il y en a de la Croix-Rouge Internationale, il y en a des Nations Unies et d'autres ONG. Donc il y a un nombre significatif.
Il n'y a pas que des Palestiniens formés par MSF,
exactement,
ça vous dit.
Et soumis éventuellement à des pressions du Hamas qui les empêcheraient de parler.
Alors on va laisser répondre à Alain Finkielkraut.
Je n'ai jamais été un relais de la propagande israélienne. Jamais. C'est vraiment... il y a un an déjà...
À l'insu de votre plein gré, je dirais.
Jamais, ni à l'insu de mon plein gré, jamais. Je remarque aussi que tous les jours, sur France 24, il y a un journaliste palestinien qui est à Gaza et qui s'exprime. Qui s'exprime dans les termes qu'il veut, mais qui s'exprime. Donc, mais je n'ai jamais été un relais de la propagande israélienne. En revanche, j'ai entendu très souvent des humanitaires, des médecins humanitaires, comparer la situation à Gaza, à Auschwitz, ou encore...
Vous pouvez citer vos sources, moi j'ai jamais entendu.
Au ghetto de Varsovie, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à l'émission Quelle époque, vous savez, quand Ardisson a fait son dérapage. Il suivait les propos d'un médecin humanitaire vraiment extraordinairement féroce à l'égard d'Israël, et c'est donc sur la lancée que Thierry Ardisson a dit « Gaza, c'est Auschwitz, il n'y a rien d'autre à dire ». D'ailleurs, il a présenté ses excuses, et pas le médecin humanitaire. L'histoire du ghetto
Mais c'est la situation qui est féroce.
Oui, mais l'histoire du ghetto de Varsovie, c'est monstrueux de parler en ces termes. C'est monstrueux, parce que, je dis vraiment, le gouvernement de Netanyahou est criminel. Mais si le Hamas déposait les armes et libérait les otages, la guerre s'arrêterait tout de suite. Vous pensez une seconde que au ghetto de Varsovie, les pauvres juifs avaient des otages? Ils avaient des otages? Ils les cachaient où? Dans leur souterrain, peut-être? On leur mettait un marché en main? Absolument pas. Ça a duré 2 mois, en plus. Ça a duré 2 mois. Et tout d'un coup, c'est encore dans un article de Georges Dudu-Eberman, philosophe, historien de l'art, dans le Monde, tout d'un coup, c'est le ghetto de Varsovie. Mais ces comparaisons n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens. Et elles paralysent la critique absolument nécessaire du gouvernement israélien.
Sur ce point,
elles se mettent en porte-à-faux, justement, avec ceux des Israéliens qui protestent semaine après semaine.
Je suis d'accord sur ce point-là. Donc, c'est une non-discussion. Vous évoquez des gens qui sont en dehors de ce studio. Très bien, discutez avec
mais
eux.
Mais vous avez parlé vous-même de charniers et de camps de concentration.
Bien sûr. En ce moment, camps de concentration.
Donc, c'est.
Mais Alain Finkielkraut, est-ce qu'il faut que je vous rappelle que le camp de concentration n'a pas été inventé par les nazis?
Oui, d'accord.
Il a été avancé dans les guerres impériales.
Vous savez très bien à quoi vous faites référence. Et évidemment, nous vivons une époque d'une...
Mais qui a parlé le premier de Shoah? De mini-Shoah, voire de Shoah?
Pas moi.
Pour désigner le 7 octobre. Mais d'accord, alors donc je ne vous renvoie pas cette accusation, ne me renvoyez pas le parallèle avec Auschwitz ou le ghetto de Varsovie, que je trouve effectivement indécent.
Bon, bah, totalement
en dehors. Alors j'ai une question, j'ai parfaitement entendu votre colère, qui me paraît très légitime, sur l'usage d'Auschwitz et de la Shoah maintenant contre Israël, mais je voudrais vous demander si, de la même façon, Alain Finkielkraut, vous n'êtes pas, et je dois dire que j'ai envie de dire comme moi, parce que c'est la chose qui me met le plus mal dans cette histoire, peut-être de toutes, c'est l'usage permanent de la Shoah et du passé antisémite de l'Europe, par Netanyahou lui-même.
Bien
lorsque
sûr.
La Cour pénale de justice internationale a lancé les mandats d'arrêt contre lui, et d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de monde pour le contredire en Israël, me semble-t-il, il a dit « c'est un tribunal digne de l'affaire Dreyfus, ça n'a quand même rien à voir, la CPI, l'affaire Dreyfus, et c'est sans arrêt la Shoah ».
Mais certainement pas les opposants à Netanyahou sont écœurés par cette rhétorique. Et là d'ailleurs ça pose un problème très grave, qui remonte même aux origines du sionisme. Le sionisme, c'était un effort de normalisation de la vie juive. Mais ça ne voulait pas dire qu'on allait fonder un État comme les autres. Un État comme les autres, non. Le sionisme avait une autre ambition. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'opposants israéliens et juifs disent qu'avec Netanyahou, le sionisme est en danger. Le sionisme est en danger. Israël est en train de perdre son âme sioniste. Non, c'était être un État parmi les autres. C'est-à-dire, et donc, d'ailleurs, un grand sioniste qui habitait Israël, ami de Hannah Arendt, Kurt Blumenfeld disait, le mot goy a disparu de mon vocabulaire. C'est-à-dire, je me refuse à diviser le monde en deux.
Et vous dites très joliment dans votre article pour le Figaro que vous luttez contre vous-même, contre une tendance paranoïaque
on l'a tous.
Qui existe chez beaucoup de juifs qui ont souffert, dans des familles qui ont souffert.
Oui, et quand on voit la montée de l'antisémitisme aujourd'hui, quand on voit l'antisémitisme sévir au Palais Bourbon, on est tenté à nouveau de diviser le monde en deux, les goyes et nous. Et effectivement, Netanyahou joue là-dessus. C'est-à-dire, il victimise Israël, tous les goyes nous détestent, puis plus nous sommes impopulaires, plus cela prouve que nous avons raison. C'est un raisonnement que je conteste, que je combats. Il y a des critiques d'Israël qui sont ignobles, qui sont absolument ignobles, mais quand l'Allemagne elle-même, Friedrich Merz, dit « je ne comprends plus la politique israélienne à Gaza », il faut l'entendre. Quand le Danemark aussi veut prendre du recul, ce sont des pays amis d'Israël, l'Allemagne on sait pourquoi, donc les Israéliens devraient être capables de trier le bon grain de l'ivraie, de faire la différence. Certains d'entre eux, notamment au gouvernement, ne le font pas. Ils succombent au vertige du chiffre 2. L'antisémitisme est partout. Seul comme contre tous, nous sommes le juif des nations. Non, Israël n'est pas le juif des nations. Même si tous les juifs sont mis en danger aujourd'hui par l'antisémitisme qui grimpe de manière affolante, je m'insurge totalement contre ce type de raisonnement.
Bien, vous voyez, je continue de penser qu'il y a plus d'accord qu'imaginait au départ entre vous deux. Sur quoi voudriez-vous insister, Ronnie Broman ? Moi, j'ai une petite intuition que là, il va y avoir peut-être un désaccord, mais je vous laisse réagir comme vous voulez. Je vous le sers simplement, vous en ferez ce que vous voudrez. Je crois que vous avez aussi à cœur de rappeler que la violence du 7 octobre, d'ailleurs, je voudrais préciser que vous vous êtes insurgé contre cette violence. Ici, à France Culture, vous étiez l'invité d'Emmanuel Laurentin face à Ali Barnavi le 11 octobre 2023, et vous avez même parlé de pogrom, d'effroi, de Khmer Rouge, vous avez employé ces mots dans cette émission. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Israël qui n'en ont pas fait autant. Néanmoins, vous avez à cœur de rappeler qu'il n'y a aucune justification, mais comme l'a dit M. Bourlange, il y a des causes et qu'Israël doit comprendre que son comportement a pu mener à cela, ce qui n'excuse en rien ce qui s'est passé. Est-ce que je vous résume correctement ?
Tout à fait. Je reprends d'ailleurs l'expression de Jean-Louis Bourlange, qui a renouvelé sa critique récemment dans des termes très sévères et à mon avis... Enfin, j'enlève le mot sévère, non, dans des termes très justes et donc très, très sévères. C'est cette attaque est sans excuse, mais pas sans cause. Autrement dit, cette attaque, elle prend place, cette attaque du 7 octobre, prend place dans une histoire déjà longue. Disons, en gros, tous les 2-3 ans, plomb durci, pilier de défense, pluie de printemps, enfin, il y a des termes parfois poétiques, parfois effrayants, qui sont utilisés pour décrire les opérations israéliennes, mais le résultat, ce sont des milliers de morts, des milliers de blessés, des milliers de mutilés d'ailleurs, qui ont été mutilés délibérément par des tirs avec des balles de haute vélocité dans les articulations, notamment dans les genoux, bien évidemment, contre des manifestants qui ne représentaient aucun danger pour Israël, et le tout d'ailleurs assorti d'une sorte de mise en scène, puisqu'il y avait des Israéliens qui trouvaient judicieux d'aller s'installer pour regarder ce que faisait leur armée à Israël. On arrivait avec son pique-nique, c'est très tôt, pour jouir du spectacle son et lumière. Quand même quelque chose de particulièrement atroce. Alors je n'incrimine pas l'intégralité de la société israélienne, tous les Israéliens ne se précipitaient pas, mais disons la haine des Palestiniens, en tout cas la représentation collective des Palestiniens est suffisamment négative, suffisamment rude, pour que ce genre de situation, qui d'ailleurs continue de se produire aujourd'hui, ait lieu. Donc, oui, ça prend place dans une longue suite de guerres.
Vous parlez d'apartheid, même dans le dernier texte que vous avez publié, la préface au livre noir.
Mais ça, c'était
technique. Vous cite pour que vous expliquiez.
Oui. Oui, bien sûr, je parle d'apartheid, puisque les Palestiniens, dans l'ensemble territorial qui est dominé par Israël, ils ont la Palestine mandataire, sur laquelle Israël exerce un contrôle plus ou moins direct ou plus ou moins indirect, mais un contrôle général, c'est-à-dire la monnaie, la justice, la police, les tribunaux, etc. Tout cela, c'est Israël qui le contrôle. Donc dans cet espace, il y a 4 ou 5 statuts juridiques différents, et notamment en Cisjordanie, où vit la majorité des Palestiniens. Une partie de la population a tous les droits, ce sont les colons, y compris droit de vie et de mort, et une partie de la population, les Palestiniens, n'a aucun droit. Je pourrais détailler aussi sur les Arabes israéliens, les Palestiniens de 48, comme on les appelle, qui sont certainement le sort le plus enviable, et j'ajoute, je reconnais sans aucune difficulté que l'immense majorité d'entre eux préfèrent être arabe en Israël que arabe dans un pays arabe, donc là-dessus il n'y a absolument aucune difficulté. Il n'en reste pas moins que la politique coloniale d'Israël, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza, a abouti à la mise en place de statuts qui sont là presque par définition, parce que précisément ce sont des sujets d'une colonisation et non pas des citoyens d'un pays. Donc l'apartheid de fait existe, même si ça n'est pas en soi un projet sioniste, c'est une réalisation du sionisme.
Alain Finkielkraut.
Il n'y a aucun apartheid dans les frontières de 48. Je voudrais vous dire qu'en avril 2024 a été élue rectrice de l'université de Haïfa une neurobiologiste arabe-chrétienne, en avril 2024, c'est-à-dire après le 7 octobre.
Oui.
Voilà. Donc, il n'y a pas que des Israéliens qui vont se réjouir des atrocités commises à Gaza. Et les étudiants juifs y étaient tout à fait favorables à cette élection. 45% des étudiants de l'université de Haïfa sont arabes. C'est une ville, Haïfa, une des plus grandes villes d'Israël, totalement mixte. Alors, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, ce massacre est sans excuse, mais pas sans cause,
7 octobre.
Dit Jean-Louis Bourlange, le 7 octobre. C'est quoi la cause? C'est quoi la cause?
Elle vient Israël d'être dite là par
Israël. Il y avait l'apartheid à Gaza. Il y avait une occupation de Gaza.
Une prison. Gaza est une prison.
C'était pas une prison. C'est une prison parce que le Hamas l'a voulu. Si le Hamas avait choisi d'assurer une vie décente à sa population, Shalom Arshav serait au pouvoir aujourd'hui en Israël. Que se passe-t-il en Israël? Pourquoi Netanyahou gagne-t-il? Pays expansionniste, pays d'apartheid. Effectivement. Après la guerre des six jours, c'est devenu un plus grand Israël. Pas très grand, mais plus grand. Et depuis lors, Israël a rétrocédé le Sinaï. Première rétrocession qui s'est faite avec contrepartie. La paix avec l'Égypte qui tient toujours. Ensuite, Israël, sous la direction d'Ehud Barak, s'est retiré du Liban, du sud-Liban. Il a eu le Hezbollah. Il s'est retiré de Gaza. Il a le Hamas. Donc effectivement, une majorité d'Israéliens se disent, si on se retire maintenant de la Cisjordanie, on aura le Hamas à nos portes. Moi, je ne raisonne pas en ces termes. Je sais que ce qui se passe en Cisjordanie est terrible. Yair Golan, qui est le chef du Parti des Démocrates, m'a dit lui-même que depuis quelques mois, il y avait eu 5 pogroms en Cisjordanie. Des pogroms juifs, vous vous rendez compte, dont je milite, enfin, comme je peux, je plaide, je sais pas, pour un État palestinien, peut-être une confédération jordanienne, je plaide pour la séparation. La promiscuité qui règne actuellement est fatale aux deux peuples, fatale aux Palestiniens, fatale aux Israéliens aussi, parce que c'est leur société ou une partie de leur société se brutalise. Il faut en effet tout faire pour la séparation. Elle est plus difficile et elle est plus nécessaire que jamais.
J'essaie d'équilibrer. Au mieux, il ne reste que 2 minutes, j'en suis navrée. Ronny Broman.
La séparation, ce sont les Israéliens qui ne l'ont pas voulu. Moi, personnellement, je ne pense pas que la séparation soit un programme enthousiasmant. Je pense que le modèle de Haïfa dont vous parliez, à juste titre, me semble beaucoup plus attirant que le modèle de la séparation. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas en l'occurrence mon avis qui l'emporte, c'est la réalité. Ce sont bien les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie qui ont tué l'idée de séparation. Pendant qu'elle était en train de prendre vie sur le plan politique, elle était en train d'être asphyxiée sur le plan pratique. Je parle de la période d'Oslo, la période entre 95 et 2000, au cours de laquelle les colonies ont doublé. Et elle ne cesse de se...
C'est de sans doute la raison pour laquelle Arafat a refusé la paix de Camp David.
C'est
ma version. Oui, oui. Et Annapolis, c'est ma version aussi.
Si vous permettez, je suis
une victime consentante de la propagande israélienne.
En effet, bravo. Vous félicite de me reconnaître.
Ehud Barak, c'est sa propagande. Et alors, je veux dire une chose qui est extraordinaire. Il y a eu un documentaire où on a vu sur Arte, je crois. Un conseiller de Clinton racontait que Arafat a téléphoné à Clinton au moment où s'achevait son deuxième mandat. Et Arafat a dit à Clinton, président, vous êtes un grand homme. Réponse de Clinton, non, je suis un raté et c'est à cause de vous. Voilà.
Clinton
a fait sa propagande aussi.
On s'arrête là-dessus. Je demeure convaincue qu'il y a aussi des points d'accord très importants entre vous. Par-delà, une discorde, pour reprendre le titre de votre livre qui a maintenant près d'une vingtaine d'années, que vous avez fait ensemble, une discorde réelle, mais on a pu quand même se parler. Vous avez pu vous parler. Merci. Ronny Broman, merci Alain Finkielkraut. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Il parle cette semaine du destin. Voici le pourquoi du comment.
Comment partager un destin collectif? L'idée de destin n'est pas forcément celle d'une prédétermination anonyme, qu'elle soit transcendante, divine, dans un grand livre théologique, ou bien qu'elle soit une nécessité mécanique qui régirait de l'extérieur toute notre vie. C'était mon destin que le vent souffle, que la tuile tombe et qu'elle tombe sur ma tête. L'idée de destin n'est pas forcément cette idée d'une nécessité qui s'opposerait à un arbitraire de la liberté. L'idée de destin vient d'abord, comme l'ont montré certains grands écrivains après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de destin vient d'abord remettre au cœur de l'être en général les actions d'une vie individuelle. Oui, le fait que César ait franchi le Rubicon, le fait que telle ou telle personne ait connu telle souffrance ou telle joie, cela n'est pas anodin, cela ne s'efface pas dans, comme un sillage dans l'océan qui ne laisse aucune trace, ou comme une goutte d'eau dans la mer, ou comme un cadavre dans une pile après un crime contre l'humanité. Non, la vie individuelle a un sens, c'est d'abord ce que dit l'idée de destin, ce que disent aussi ces grands livres « Vie et destin » de Grossman, Être sans destin de Kertész ou Histoire de ma vie d'Aaron Appelfeld. Le destin individuel, la destinée, garde un sens comme récit de la place de l'humain dans l'être, de ce fait que les vies individuelles ont une réalité, tout simplement. Mais évidemment, il n'y a pas alors seulement le destin individuel, il y a le destin des humains en général, l'histoire, le destin collectif. Se reconnaître une part de destinée ou de destin collectif, c'est s'inscrire justement dans des actes qui construisent un lien entre les humains, c'est se reconnaître lié par certains actes, et on peut appeler ça aussi une tradition, une histoire, tout simplement, une destinée d'un peuple, d'un groupe, d'un état, d'une tel ou tel groupe auquel on se reconnaît appartenir, mais ce n'est pas pour autant, et de nouveau on retrouve l'antinomie, ce n'est pas pour retrouver l'antinomie d'une manière déplacée, ce n'est pas pour dire je subis le destin d'une sorte de fatalité collective qui expliquerait les actes individuels, ce n'est pas non plus pour dire ce destin n'existe pas, il n'y a que des actes atomisés, il n'y a pas de lien avec une histoire ou une tradition. Au contraire, la question du destin collectif, de telle ou telle collectivité et de l'humanité dans son ensemble sur la planète, la question de ce destin collectif a le même sens que celle du destin individuel. C'est de retrouver la façon dont nos actes créent des liens, dont nos actes créent des attachements, des responsabilités, une histoire commune et partagée que nous devons assumer et contre la disparition de laquelle ou la réduction de laquelle nous devons résister. Il peut y avoir aujourd'hui le sentiment d'un renouvelé, et on l'entend beaucoup, d'un destin de l'humanité. L'humanité serait apparue, se serait développée, serait condamnée, par exemple, par le réchauffement climatique, par le retour des guerres, à disparaître et à mourir. Mais ce destin collectif n'est pas joué. Il n'est pas plus écrit dans un grand livre transcendant que le destin individuel. Il n'est pas non plus conjurable par des actes arbitraires ou par des actes désespérés, comme si face au destin il fallait jouer notre sort au dé. Il faut assumer une histoire collective de manière critique, d'une manière qui lui redonne un sens, une responsabilité face justement à ce qui est d'abord l'écrasement complet de la vie humaine, à ce qui est peut-être le pire des destins, celui de ne pas en avoir. Celui d'avoir la disparition totale des destinées individuelles et collectives, du sens de l'humain dans la vie en général. Oui, nous devons lutter pour qu'il reste au moins l'idée d'un destin collectif, et ce sera la manière de le rendre possible à nouveau.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Jibouar, Carla Michel et Nassim El Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.